France Inter. France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Que ce soit la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule en ce moment au Maroc, que ce soit la Coupe du Monde de football, dont la prochaine édition se tiendra l'été prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada, c'est toujours un peu l'occasion de voir comment les pays organisateurs profitent de cette gigantesque vitrine pour faire de la géopolitique et montrer leur influence à travers la planète. Eh bien, on verra dans ce registre quel rôle joue aussi la Fédération internationale de football, comment son président Gianni Infantino sait toujours flatter les pays organisateurs et leurs présidents, jusqu'à faire fi parfois des exigences de neutralité pourtant inscrites dans le marbre des statuts de la FIFA. Et ça ne date pas d'hier, depuis la création des Jeux de l'Olympe, les grandes compétitions internationales sont aussi un levier diplomatique dans le jeu moderne, on parle de soft power, pour le meilleur comme pour le pire parfois. Alors venez nous dire ce soir, comment vous appréhendez cette douce puissance politique dans le sport? La géopolitique a-t-elle tué le football ou au contraire, a-t-elle encore bien un avenir? A-t-elle sa place, la politique dans le sport? Venez nous dire tout ça ce soir, j'attends vos questions, vos témoignages. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Avec ce soir pas mal d'invités pour vous répondre, les auditeurs, il y a Pierre Rondeau, économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès, professeur à la Sports Management School. Bonsoir Pierre Rondeau.
Bonsoir.
Ronan Evin, vous êtes directeur général de l'association Football Supporters Europe. Bonsoir. Est-ce que Bonsoir. Vous m'entendez? Vous êtes bien là? Et puis Paul... Paul Dicci, vous êtes historien, on va parler de l'histoire du football aussi, spécialiste du sport, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté. Vous êtes aussi le directeur de la revue Football, et on mettra un S à football d'ailleurs, vous nous direz pourquoi. Football, histoire, culture, économie et société, c'est la revue que vous dirigez. Et puis Julien Froment, qui est journaliste sportif à Radio France. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Je précise que vous irez couvrir cette prochaine Coupe du Monde l'été prochain sur le continent américain. Pierre Rondeau, on va peut-être commencer par vous, économiste du sport. On parlait des États-Unis, les États-Unis qui n'ont jamais été une grande nation de football soccer. Pourquoi, dès 1994, les États-Unis ont-ils voulu organiser leur première compétition de football?
Grande nation soccer masculin, précisons-le, puisque chez les féminines, c'est une grande nation de football. Dès 94, ils ont effectivement organisé leur premier mondial, et le premier mondial organisé en dehors du continent sud-américain et européen, pour les États-Unis en 94. Pour des raisons, vous l'avez rappelé en introduction, des raisons effectivement géopolitiques, de réputation, de notoriété, d'impulsion à ce que les Américains s'ouvrent à ce sport mondialisé, mais qui n'a pas encore touché les frontières nord-américaines. C'est vrai que les Américains sont peu friands de ce sport et préfèrent le foot US, préfèrent le baseball, préfèrent le hockey. Et c'était interrogé finalement à savoir pourquoi, et notamment ce qui est assez intéressant et qui est en lien avec votre sujet sur les liens entre géopolitique, économie et volonté à ce que les États, les pays, les grosses sociétés prennent l'empreinte, la marque du football. C'est aussi sous l'impulsion de l'équipementier Nike. Nike a très tôt voulu faire de la sélection nord-américaine une grande nation du soccer, du football, et avait eu beaucoup d'espoir à ce que le développement du football sur son territoire, impulsé en partie par la Coupe du Monde, puisse permettre de gagner des parts de marché, de vendre plus de maillots, plus de chaussures, plus de baskets, étiquetés Nike, et que Nike, finalement, grosse société, puisse vendre et augmenter son chiffre d'affaires. Et il y a aussi la considération géopolitique, tant du côté du gouvernement nord-américain que du côté de la FIFA. La FIFA avait aussi cette ambition, et l'a encore aujourd'hui, de devenir, de s'imposer comme étant la fédération la plus importante sur Terre, le sport le plus important sur Terre, et qu'elle puisse toucher tous les continent, elle avait touché l'Europe, elle avait touché l'Amérique du Sud, l'Afrique, il lui restait l'Asie, elle va l'avoir avec la Coupe du Monde 2002, Corée-Japon, et le continent nord-américain, Coupe du Monde 94 et aujourd'hui 2026.
Vous parliez du business américain, celui de Nike. Est-ce qu'on peut dire qu'avec l'ère Trump, cette prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, il faut dire aussi le Canada et le Mexique, parce que c'est déjà de la géopolitique, en oubliant les deux autres pays. Est-ce que cette Coupe du Monde prochaine cet été sera celle du business first là encore.
Alors, en tout cas, on y va tout droit. Pour le rappeler, voilà, c'est vrai que c'est une grosse nouveauté. Il y a trois éléments qu'on peut citer, qu'on peut noter pour cette évolution et cette financiarisation du football des nations. Et je mets de côté, je distingue le football des clubs et le football des nations. Ici, dans le football des nations orchestré par la FIFA, déjà, on va avoir une Coupe du Monde à 48 nations. Jusqu'ici, c'était 32 nations. Là, on va augmenter le nombre de matchs, mais aussi augmenter...
On fait une parenthèse, pourquoi est-ce qu'on a augmenté le nombre de matchs cette
fois-ci ? Alors, officiellement, c'est le discours officiel. C'est-à-dire que le football appartient au monde entier et qu'il faut ouvrir plus de places à tous les pays, au plus grand nombre de pays possible. Donc on passe de 32 à 48 pour que plus de pays aient la chance de pouvoir participer à cette compétition. Officieusement, et nous ne sommes pas dupes, c'est aussi pour augmenter le nombre de matchs, donc le nombre de droits TV. Et à titre de comparaison, les droits TV de la Coupe du Monde 2022 à 32 nations, on était sur 2,6 milliards de dollars de recettes droits TV. Pour la Coupe du Monde 2026, on va passer à 3,2 milliards.
Et les droits TV, on va le rappeler dans un instant, hein, c'est la FIFA qui les prend et qui est obligée de les redistribuer puisque c'est à but non lucratif. On va en parler dans un instant et on verra dans quelles conditions ça vous fait sourire. Ronan Evin, je rappelle, vous êtes directeur général de l'association Football Supporters Europe. Comment la FIFA, d'ailleurs, puisqu'on parlait d'elle, comment est-ce qu'elle pourrait être instrumentalisée par Donald Trump ?
Alors, la politique de Gianni Infantino, qui est un alignement complet avec les pays hôtes de la Coupe du Monde masculine, puisqu'il traite la Coupe du Monde féminine comme une compétition de seconde zone, mais la FIFA dans une position compliquée. On l'a vu en Russie, on l'a vu au Qatar en 2022, et on a une approche similaire, voire même plus poussée, sur 2026, qui est de se mettre dans la roue de Donald Trump, d'annoncer à l'avance que ça sera la meilleure Coupe du Monde jamais organisée, et ça laisse en réalité assez peu de marge de manœuvre à la FIFA. Si demain, comme il le menace, Donald Trump devait déplacer certains matchs depuis une ville autre jusqu'à une autre, notamment les villes démocrates, ou s'il devait menacer d'autres éléments importants de l'organisation de la Coupe du Monde, la FIFA n'aurait que très peu de moyens de le faire reculer. Donc, en réalité, la stratégie de Gianni Infantino de s'aligner sur le leadership politique met en réalité la FIFA dans une position de faiblesse parce que elle a aujourd'hui très très peu de moyens de pression sur les États-Unis.
Vous êtes en train de nous dire que la FIFA est obligée, contrainte plutôt, de se laisser tordre le bras par Donald Trump et son équipe.
Oui, et d'ailleurs, la communication de Gianni Infantino n'a plus grand-chose à voir avec la réalité. Il s'est beaucoup inspiré, je pense, de Donald Trump dans ce sens, en annonçant que le Qatar avait organisé la meilleure Coupe du Monde jamais vue, et puis quelques mois plus tard, en annonçant déjà que les États-Unis organiseraient la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Donc, il n'a plus d'autre choix que de confirmer cette annonce, et donc, quoi qu'il arrive aux États-Unis, et on se dirige vraisemblablement vers des problèmes d'organisation assez importants, vers potentiellement des sièges vides dus à la politique tarifaire de la FIFA et aux difficultés d'entrer aux États-Unis pour un certain nombre de pays. Mais tout cela sera largement ignoré et on aura, quoi qu'il arrive, le meilleur tournoi de l'histoire de la FIFA.
On va aller au standard dans un instant, rejoindre Mohamed qui nous attend. Et puis on entendra Julien Froment hein, qui va partir pour Radio France couvrir cette prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. Auparavant, je voudrais vous entendre, Paul Dietschy, je rappelle que vous êtes historien et spécialiste du sport. Est-ce que de tout temps, le sport, et je pense d'abord aux Jeux Olympiques peut-être, a été un vecteur géopolitique ?
Ah, tout à fait. Si on prend les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896 à Athènes, c'était un moyen pour l'État grec hein, de se faire connaître, de se faire valoir. Et il y avait déjà des manifestations très chauvines, et d'ailleurs de la part des Américains dans le stade d'Athènes. Si on prend la Coupe du Monde, c'est clairement une manifestation qui a un lien immédiat avec la politique. La première Coupe du Monde à Montevideo en Uruguay, c'est pour l'État uruguayen une manière aussi, là aussi, de se faire remarquer sur la scène internationale. En plus, l'équipe gagne. On célèbre le centenaire de l'indépendance de l'Uruguay. Ensuite, vous avez la Coupe du Monde en 34 en Italie, qui est disputée sous les yeux de Mussolini. Qui
avec
est
un arbitrage
largement...
très favorable à Mussolini, pardon, à l'Italie à l'époque.
Oui. Oui, mais souvent, bon, c'était le lot quand même des arbitres hein, qui souvent arbitraient dans des conditions un peu difficiles. Ils ont été assez largement suggestionnés, c'est vrai, sur les pelouses italiennes. Mais disons que pratiquement toutes les Coupes du Monde ont eu, d'une manière ou d'une autre, une dimension politique. Bon, si on pense en 78 avec la junte de Videla en Argentine, hein, c'était là aussi un moyen d'essayer de légitimer le pouvoir dictatorial, d'essayer aussi de réconcilier entre guillemets les Argentins. Et puis plus près de chez nous quand même, la Coupe du Monde 98, elle a une dimension très largement politique. Elle est obtenue face au Maroc, hein, donc de la part de la FIFA. Et puis surtout, on se rappelle tous les discours hein, sur une nation multiculturelle, sur l'intégration, etc. Donc, que ce soit d'ailleurs des régimes autoritaires ou des régimes démocratiques, eh bien, les États organisateurs essaient de donner un sens particulier à cette manifestation. Et d'autant plus que, évidemment, c'est une manifestation qui se joue, comme l'a rappelé Pierre Rondeau, eh bien, entre équipes nationales. Donc, il y a aussi cette dimension très symbolique hein, de la nation, 11 joueurs qui représentent la nation. Donc, immédiatement, c'est politique.
On va parler de ça. Le football le football est devenu l'un des piliers de ce qui fait nation, au même titre que la culture, que la langue. C'est un des piliers de la nation, le football. En France, en tout cas, et dans le monde.
Hein. Ouais. Totalement. Hein, on voit bien en France hein, les euros, les Coupes du Monde. C'est le moment où les Français se réapproprient ces couleurs nationales. En plus, c'est une histoire qui, finalement, est consensuelle, hein, qui peut intégrer tout le monde. Il n'y a pas, évidemment, ces fractures de l'histoire qui sont liées à l'histoire de la colonisation, par exemple. Donc, c'est vraiment un des lieux, finalement, où on fait encore nation. Même si on l'a vu dans un passé récent, en 2010, par exemple, il peut y avoir aussi des polémiques et on reproche à certains bleus d'être de mauvais Français et portant le maillot bleu. Mais malgré tout, c'est quand même
notamment chanter la Marseillaise, c'est devenu l'un des vecteurs clivants de faire nation ou pas. On va aller au standard, on va vous entendre dans un instant, Paul Dietschy, on va au standard parce que Mohamed nous attend. Bonsoir Mohamed, merci d'avoir patienté.
Bonsoir France Inter.
Vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
Alors, moi, j'avais surtout une observation et un regret, en fait. Alors, c'est vrai que le football, c'est un phénomène mondial et sociétal. Alors, c'est un enjeu aussi pour les États, même pour les supporters. Mais ce qui me chagrine un petit peu, c'est que les acteurs eux-mêmes, les premiers acteurs, les footballeurs, je trouve qu'ils se sont effacés au fil du temps. Dans les années 70 ou 80, on avait des joueurs à fort caractère qui prenaient position, qui avaient des principes, qui étaient éduqués. Je pense à Socrates, Maradona, Cantona dans les années 90. Et là, je trouve que les joueurs qui sont les premiers acteurs, ils sont pris par leur contrat, par les enjeux financiers et économiques, même par la FIFA. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de messages à caractère politique, c'est interdit. Et j'en veux pour preuve aussi, j'ai très peu entendu de réaction par rapport à l'organisation des mi-temps qui vont se passer là pendant la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, l'année prochaine, enfin cette année, qui vont être découpés en cartons, uniquement pour faire passer des messages publicitaires, et il n'y a plus de prise de position, et c'est ça qui me chagrine un petit peu.
Merci beaucoup de ce témoignage et je vais le soumettre à nos invités. On va parler dans un instant de savoir si ou pas ou non les joueurs prennent trop peu position. On va juste rappeler ce phénomène de starification qui a complètement contribué à faire émerger le football dans les années 70. Je pense à un homme comme Pelé, Pierre Rondeau. Il faut rappeler à quel point la télé a contribué aussi à la starification et c'est venu à ce moment-là dans les années 70.
Si on parle de Pelé à ce niveau-là, effectivement, Coupe du Monde 74 diffusée en Mondovision couleur, et vous avez uniquement pour le cas français, par exemple, une augmentation de 300%.
Je vais vous parler, mais parce que je vous coupe, parce que votre casque est très près du micro, et ça va faire du Larsen dans peu de temps. Donc voilà, soit vous le mettez sur les oreilles, soit vous le mettez bien sur la table.
Oui, non, la Coupe du Monde 74 avec Pelé, rien qu'en France, par exemple, donc diffusée en Mondovision couleur, et rien qu'en France, vous avez une augmentation de plus de 300% des téléviseurs couleur, qui montrent à quel point, voilà, on est sur vraiment la première star planétaire du football. On veut regarder Pelé avec son maillot brésilien jaune, donc on a besoin de la couleur, on achète des télécouleurs, et on a une augmentation ici, à ce niveau-là, des ventes de téléviseurs.
Alors, la question que pose Mohamed, je vous la soumets, Ronan Evin, directeur général de l'association Football Supporters Europe. Les joueurs, aujourd'hui, n'osent plus prendre position, ils préservent d'abord leur image, et comme notre auditeur, vous trouvez ça dommageable ?
Alors, je pense que d'abord, il ne faut pas en attendre trop des footballeurs, c'est comme le reste de la société, certains d'entre eux sont concernés par
par ces questions politiques, d'autres non, d'autres préfèrent défendre leurs intérêts personnels et se battre pour leurs droits spécifiques en tant que travailleurs, en tant que salariés. Donc il faut pas attendre trop des footballeurs, ils savent se mobiliser quand c'est nécessaire et quand le sport est mis en danger. Je crois que les manipulations qu'on a vues ces derniers temps sur les règles du jeu de la part de la FIFA sont particulièrement inquiétantes et pourraient mener à terme à une levée de bouclier. Il y a effectivement les nouvelles pauses publicitaires. On a vu également une manipulation des acrobaties disciplinaires pour permettre à Cristiano Ronaldo de pouvoir jouer la compétition dès le premier match et une manipulation du calendrier pour faciliter la qualification du Qatar et de l'Arabie Saoudite, deux des principaux bailleurs de fonds de la FIFA. Donc on est sur quelque chose d'assez inédit, du moins dans l'histoire moderne de la Coupe du Monde. Et si la FIFA commence à mettre en danger l'intégrité du sport, c'est là qu'on pourrait voir les footballeurs se mobiliser, comme on l'a vu dernièrement en Espagne, où les joueurs ont mis fin au plan de la Liga de délocaliser un match à Miami. Là-dessus, les joueurs se sont mobilisés, ont fait grève et ont obtenu gain de cause.
Julien Froment, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à Radio France et vous irez donc couvrir cette Coupe du Monde l'été prochain sur le continent américain, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire depuis le début de l'émission, avec un Donald Trump qui sera probablement omniprésent. Comment appréhendez-vous la couverture de ces 7 semaines de compétition ?
Ah, bah, il va y avoir des choses à raconter.
Ben oui.
C'est vrai que avec Donald Trump, en effet, au pouvoir aux États-Unis, on peut s'attendre à tout. Après, normalement, il y a un cadre assez strict qui doit être respecté par la FIFA, que ce soit pour la tenue des matchs, les villes hautes. Mais c'est vrai qu'avec ce président capable de tout et n'importe quoi, il l'a dit, hein, il est prêt à changer des villes qui ne lui plaisent pas. Il a ciblé notamment des villes démocrates qui allaient héberger des matchs de la Coupe du Monde. On voit aussi sa politique extérieure qui a un impact sur la Coupe du Monde avec, par exemple, pour le moment, les supporters ivoiriens, les supporters sénégalais, les supporters d'Haïti qui sont interdits de territoire. Donc c'est vrai que c'est une Coupe du Monde qui va être un peu étonnante, on va dire, à couvrir. Beaucoup de questions se posent, notamment sur Pierre Rondeau l'a évoqué, la présence des supporters dans le stade, parce que cette Coupe du Monde va être peut-être la Coupe du Monde. Alors eux, ils espèrent que ça soit la plus belle Coupe du Monde de l'histoire, mais ça va être la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire, avec des billets en moyenne autour des 200, 300, 400 dollars.
Alors justement, on a une question d'Olive, et je vous la pose, Julien Froment, sur ce thème-là, compte tenu des prix exorbitants des places et de l'inclusion qui ne sera pas favoriser, je pense à toutes les personnes handicapées, aux personnes, vous le disiez, en provenance d'Afrique, et puis les personnes LGBT qui seront une fois de plus muselées par la politique de Donald Trump, c'est son choix politique. Qui va aller voir les matchs de cette Coupe du Monde, nous demande Olive.
Bah, des Américains déjà, parce que nous, Européens, on peut être choqué par les montants évoqués sur les prix des billets, mais au final, c'est le prix moyen, c'est le panier moyen en fait que dépense un Américain pour aller voir un match de NFL, un match de NBA ou d'un autre sport. C'est vrai que nous, on n'est pas habitué à ces tarifs-là, mais pour bien en être conscient, par exemple, si vous voulez assister à un match de la Coupe du Monde et que vous voulez y aller en voiture, il faut payer un parking. Le parking pour une journée, c'est 200 dollars la journée. C'est ça aller voir un événement sportif aux États-Unis. Donc il y aura essentiellement des spectateurs américains, mais après la FIFA communique sur le fait qu'il y ait 150 millions de demandes de billets lors de ces derniers jours. Reste à savoir d'où proviennent les demandes. Est-ce que il y a beaucoup de demandes qui émanent notamment d'Europe? Vraisemblablement il y en a qui émaneraient d'Allemagne, du Royaume-Uni, mais pour le reste il y a beaucoup quand même d'incertitudes autour de tout ça.
On va retourner au standard. Guillaume nous appelle. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir France Inter, bonsoir messieurs, tous mes deux déjà.
Merci.
Pour 2026.
Mais
nous vous les renvoyons avec plaisir.
Une Coupe du Monde, je résume, 2026 avec 104 matchs, 48 équipes, 32 équipes qualifiées sur 48, soit 2/3 en 16e de finale, c'est une nouveauté. D'où ma question, la télévision, l'argent et donc par conséquence la géopolitique ont-elles pris le dessus sur l'intérêt sportif ?
Pierre Rondeau va vous répondre, je rappelle qu'il est économiste du sport. Est-ce que l'économie a pris le pas sur l'intérêt sportif ?
Aujourd'hui oui, aujourd'hui c'est indéniable qu'effectivement la FIFA a cette recherche recherche fondamentale et première de lucrativité, alors que, quand bien même, vous l'avez rappelé en début d'émission, ça reste une association de droit suisse, donc qui par définition n'a pas un but premier de lucrativité et de rémunération de ses actionnaires, mais de fait, quand vous allez avoir à la fois ces matchs qui vont augmenter par rapport aux éditions précédentes et l'introduction des cartons qui vont permettre à ce que les chaînes de télévision mettent de la publicité de 3 minutes à chaque mi-temps, donc dans des cartons pour augmenter les recettes, on est sur une forme globale de financiarisation. Alors, point à rappeler sur ces cartons, par exemple, c'est pas dans l'intérêt de la FIFA, puisque les pubs vont être vendues ici par les chaînes de télévision, par les diffuseurs.
Elles vont prendre directement l'argent et n'iront pas à la Fédération internationale.
C'est la FIFA qui va en profiter, puisque la FIFA a vendu ses droits TV, de façon plus élevée, on l'a rappelé, elle augmente de 600 millions de dollars ses recettes télévisuelles. Les chaînes de télévision du monde entier, y compris françaises, qui ont payé plus d'argent pour diffuser ce mondial, veulent un retour sur investissement, et donc sont très contentes de pouvoir mettre ces pubs en carton. On l'a dit, et ça a été rappelé dans différents médias, qu'on a parlé d'une américanisation, et que c'est vraiment le continent nord-américain, le pays des États-Unis qui a imposé cette nouvelle philosophie. Côté européen, je pense que les diffuseurs sont très contents d'avoir ces cartons. Les diffuseurs allemands, français, italiens, britanniques seront très contents de pouvoir mettre de la pub aujourd'hui après les hymnes nationaux et demain...
Est-ce qu'on a une idée de ce qu'en pense le téléspectateur et l'amateur de football ?
On a beaucoup été dérangés, en tout cas, moi le premier, mais beaucoup d'autres, et j'imagine beaucoup d'auditeurs étaient dérangés par les pubs après les hymnes nationaux. Pour autant, les audiences n'ont pas chuté. Les gens n'ont pas changé de chaîne. Donc les gens vont s'en plaindre, et on va s'en plaindre. Mais pour autant, malgré tout, les audiences, je pense, resteront très élevées. Côté européen, côté américain, côté sud-américain, ça reste quand même la Coupe du Monde de football, qui est vue par la moitié de la population mondiale.
Ronan Evin, je rappelle, vous êtes le directeur général de l'association Football Supporters Europe. On parle d'influence, on parle d'argent et on parle du Qatar, selon notre auditeur. Je vous renvoie la question. Que cherche le Qatar quand il investit dans la Coupe du Monde de 2022 et aussi dans le Paris Saint-Germain en France? L'intérêt est sûrement moins économique que géopolitique pour le Qatar?
Oui, certainement. L'intérêt du Qatar, c'est de se présenter comme une nation sportive et comme une nation capable d'organiser des grands événements. Et on le voit aujourd'hui, post-Coupe du Monde, la stratégie du Qatar, c'est de continuer à attirer des événements. Donc on voit une stratégie sur le long terme, ce que n'a pas eu la Russie, puisque la Russie avait plutôt réussi à se présenter comme étant une potentielle destination touristique après la Coupe du Monde 2018. Et puis évidemment, tout cela s'est très rapidement effondré. La question économique du côté de la FIFA, elle est bien sûr prégnante, mais elle repose d'abord sur les intérêts politiques d'un homme, de Gianni Infantino, et qui cherche à asseoir son pouvoir, puisque...
Mais on le dit déjà Fiorentino, déjà proche de Donald Trump, il n'a pas besoin de séduire encore plus, si. Visiblement, il l'a fait en créant un prix.
De rester à la tête de la FIFA, ça il en a besoin. Et pour cela, il a besoin de deux choses. Il a besoin d'augmenter les réserves de la FIFA et surtout de redistribuer toujours plus d'argent aux associations membres de la FIFA. Et c'est le but ultime de l'augmentation des revenus de la FIFA, c'est bien d'asseoir son pouvoir, de se garantir une réélection. Et aujourd'hui, il est difficile d'imaginer Gianni Infantino ne pas rester à la tête de la FIFA lors de la réélection de 2027.
Un point d'histoire. Paul Dietschy, historien spécialiste du sport en France. À quand remonte la diplomatie par le sport? On le sait, ça, précisément?
Oui, tout à fait. Il suffit d'aller aux archives du Quai d'Orsay. En 1920, est créée une section tourisme et sport dans l'organe de propagande du Quai d'Orsay, qui s'appelait le service des œuvres françaises à l'étranger, et était dirigé par un écrivain, Jean Giraudoux, et l'idée, c'était d'aller envoyer des équipes, des champions, d'envoyer les films de leurs performances aussi, dans le monde entier, pour donner l'image d'un pays qui n'avait pas été saigné à blanc par la guerre. Et on voit bien dans les archives, pendant tout l'entre-deux-guerres, hein, les diplomates, les ambassadeurs français reçoivent, par exemple, les mousquetaires, hein, qui avaient gagné la Coupe Davis, reçoivent aussi les équipes de football. Donc cette diplomatie, elle a été inventée très largement en France. Et puis ensuite, bien évidemment, elle est reprise dans les années 30, hein, par l'Italie fasciste, par l'Allemagne national-socialiste. Donc ça, c'est absolument pas nouveau, hein, cette chose-là. Et si je peux ajouter une chose à ce qui a été dit auparavant, je crois qu'il faut pas penser que la FIFA a complètement changé depuis 30 ans. Dans les années 30, l'un des critères qui permet de dire qu'une Coupe du Monde est réussie, c'est d'abord les recettes financières et donc ce qu'en tire l'organisation. Parce que pour l'organisation, c'est avoir de l'argent, c'est évidemment avoir des moyens d'action. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Hein. La politique d'Infantino, elle commence en 74 avec Avalanche également. Ce qui est nouveau, évidemment, c'est cette disproportion donc liée à la financiarisation. Et lié surtout à l'argent qui vient de la télévision depuis le début des années 2000.
Julien Froment, je rappelle que vous allez couvrir pour Radio France cette Coupe du Monde de football au Mexique, au Canada et aux États-Unis. On était en train de dire que le football mondial a changé pour devenir plus économique, il y a moins d'intérêt sportif. Est-ce que la profession de journaliste sportif a-t-elle aussi un peu changé? C'est-à-dire que vous allez rendre compte aussi, vous allez donner à entendre de ce qu'est l'Amérique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sous l'ère Trump, et évidemment, il y aura la compétition sportive, mais vous allez apporter un autre regard. Le métier de journaliste sportif a changé, il est devenu un peu plus sociétal, un peu plus politique aussi, parfois.
Surtout, en fait, je suis journaliste. Je ne suis pas journaliste sportif.
Évidemment.
Je couvre le sport, mais je reste journaliste, et bien évidemment que couvrir un événement comme la Coupe du Monde, ce n'est pas que commenter des matchs de football et reporter ce qu'on voit lors des rencontres. C'est aussi raconter, bien évidemment, les villes que l'on va traverser, les gens que nous allons rencontrer. Voilà, ce sont les grandes et les petites histoires. Alors moi, pour le coup, je vais suivre l'équipe de France de foot. Donc j'irai à Boston, à Philadelphie et à New York pour la première partie de la compétition. Et bien évidemment, avec mon confrère Xavier Monferrand, on aura à cœur de raconter aussi tout le contexte et l'atmosphère autour de ces rencontres des Bleus.
Et on aura à cœur d'écouter évidemment vos reportages. Je vous pose encore la question, Julien Froment, celle d'Alain de Lyon. Coupe du Monde, on aura, je suppose, des matchs aux horaires américains avec de la pub toutes les 10 minutes. Ça va être compliqué de regarder ça. Comment est-ce qu'on va suivre ça en France?
Alors non, en France, pour les matchs de l'équipe de France, on va les suivre très facilement parce que Pierre Rondeau évoquait justement le rôle des diffuseurs français. En France, c'est le groupe M6 qui a les droits de retransmission des matchs de l'équipe de France. Et bien évidemment, M6 a négocié avec la FIFA pour que les matchs soient à des horaires tout à fait respectables, on va dire, pour les spectateurs et spectatrices françaises. Le premier match des Bleus face au Sénégal aura lieu à 21h, la deuxième rencontre à 23h. Face à la Bolivie, à l'Irak ou au Suriname, on n'a pas encore l'adversaire, il faudra attendre la fin du mois de mars. Et puis le dernier match face à la Norvège, là aussi, aura lieu à 21h. Donc, pas de grands changements, on va dire, dans les habitudes des spectateurs et des auditeurs aussi.
Pierre Rondeau, on ne peut pas parler de l'influence géopolitique du football sans évidemment revenir encore une fois sur la FIFA. Question d'un auditeur qui nous demande, mais quel est le rôle précisément de la FIFA?
Le rôle au niveau de l'organisation?
Exactement.
En tout cas, d'organiser ici la compétition Coupe du Monde.
Pas forcément en ce qui concerne la Coupe du Monde de football, mais dans la gestion du football mondialisé qui est aujourd'hui.
Au niveau de la gestion et de l'organisation des compétitions, même des règles du jeu, la FIFA orchestre tout ce qui concerne le jeu footballistique. Le football est organisé directement et indirectement par la FIFA, qui va gérer directement les compétitions internationales. On parle de la Coupe du Monde, mais tout le reste est sous l'autorité de la FIFA, qui va ensuite déléguer auprès des fédérations continentales, l'UEFA pour l'Europe. Et d'ailleurs, il y a un conflit, on va dire, politique en coulisses entre l'UEFA et la FIFA à ce niveau-là, au niveau de la compétence et de la prérogative et du monopole d'organisation des compétitions entre l'UEFA pour l'Europe et la FIFA pour le monde. Mais la FIFA a son rôle officiellement et intrinsèque, en tout cas global et concret, au-delà des questions géopolitiques, d'influence et autres, et de pouvoir et de motivation et d'ambition directement de son président Gianni Infantino. La FIFA, son seul rôle, si je puis dire, est d'organiser la Coupe du Monde de football.
Organiser la Coupe du Monde de football avec des leviers politiques et géopolitiques parfois violent. On se rappelle comment Sepp Blatter, Michel Platini aussi ont été impliqués par les États-Unis parce que les deux hommes avaient, à la tête de la FIFA et à la tête de l'UEFA, avaient préféré le Qatar aux États-Unis. Les États-Unis se sont bien chargés à juste ou mauvaise raison, on va pas en parler ce soir, mais en tout cas de les mettre dans un sacré pétrin.
Voilà, c'est un très gros dossier, donc on n'aura pas le temps, j'imagine, de pouvoir en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, il faut rappeler que pour la Coupe du Monde 2022, donc qui a été organisée par le Qatar, lors de la candidature à l'organisation, les Américains, États-Unis étaient aussi candidats. Le Qatar l'a emporté pour des raisons, de diplomatie internationale, avec en coulisses, en sous-main, des interventions supposées de Michel Platini pour l'UEFA, de Seb Blatter pour la FIFA, et même du président de l'époque français, Nicolas Sarkozy, indirectement le Paris Saint-Germain. Donc voilà, tout ça est dit en coulisses. Mais ce qui est sûr, c'est que les Américains, après l'échec de leur candidature, ont mis le paquet juridique pour montrer à quel point il y avait eu, contrôle, en tout cas, il y avait eu négociation pour que le Qatar obtienne cette organisation. Les Américains ensuite ont de nouveau orchestré leur candidature pour le Mondial 2026. On se rappelle que pour 2026, le Maroc était aussi candidat, et le Maroc était, jusqu'à l'obtention américaine, favori pour l'organisation. Et que la veille du vote de l'Assemblée Générale de la FIFA, Donald Trump avait fait un tweet disant qu'il allait remercier ou se souvenir des pays partisans, en tout cas soutien de la candidature nord-américaine. Et vous avez eu des pays membres du comité de soutien Maroc 2026 qui ont fini par voter pour la candidature nord-américaine. Donc comme quoi l'intervention politique ici avait bien
fonctionné. Paul Dietschy, je rappelle, vous êtes historien et spécialiste du sport. Rappelez-nous, dans les années 60 en Algérie, comment le football a été aussi un marqueur du processus de décolonisation.
Oui, alors il faut rappeler que dans les années 50, il y avait beaucoup de joueurs d'Algérie, un peu moins du Maroc, qui jouaient dans le championnat de France de football. Et en 1958, le FLN a organisé une équipe d'Algérie, donc en intimant l'ordre aux meilleurs joueurs football algériens disputant le championnat de France de rejoindre cette équipe à Tunis. Et pendant 4 ans, cette équipe, qui jouait très bien, qui avait de très grands joueurs, comme Rachid Mekloufi, par exemple, Mustapha Zitouni, des joueurs qui auraient pu jouer d'ailleurs la Coupe du Monde 58, qui ont fait le choix de jouer pour l'indépendance. Et donc cette équipe a été faire des tournées dans les pays arabes, dans les pays socialistes, et jusque en Chine et au Vietnam du Nord. Elle pose notamment avec le général Diap, ce qui évidemment a une symbolique très forte à cette époque-là. Donc là, pour le coup, il y a des footballeurs, évidemment, qui se sont engagés. Certains, finalement, ils ont laissé leur carrière, parce que quand ils sont revenus, ils avaient plus de 32 ans. Mais d'autres sont revenus en France. Rachid Mekloufi, par exemple, a été une des grandes vedettes du championnat de France des années 60, avec l'AS Saint-Etienne. Et lorsque des envoyés, justement, de la FIFA vont en Algérie au début des années 60, ils écrivent des rapports disant que ils sont étonnés par la passion du football qui nourrit cette population, et notamment la jeunesse. Donc, on voit bien que cette question politique a été déjà très présente dans ces années-là.
Une question sur l'organisation de la Coupe du Monde de 2026, et je vais la soumettre à Julien Froment. Comment ça se fait que les États-Unis, le Mexique et le Canada sont 3 pays à organiser ces Jeux, cette Coupe du Monde de football?
Ça a été une candidature commune, tout simplement. C'est de plus en plus le cas, parce que organiser une Coupe du Monde, ça coûte cher, même quand on est les États-Unis. Le Mexique et le Canada, ils ont vu un intérêt commun à se mettre aux côtés des États-Unis pour organiser la plus grande compétition qui puisse exister dans le foot. Et on le voit, en 2030, l'Espagne, le Portugal et le Maroc aussi ont fait candidature commune pour organiser la compétition. C'est de plus en plus récurrent, et ça devient presque une nécessité, parce que organiser une telle compétition coûte vraiment énormément d'argent, et que des fois, c'est même quand on est des États-Unis, c'est difficile à soutenir seul.
Encore un mot sur la FIFA, parce que des auditeurs nous ont entendu un peu sourire ou lever les yeux au ciel quand on a parlé de la FIFA et de sa neutralité. Je vous la soumets, Pierre Rondeau. La FIFA et son rôle de neutralité politique, ça figure même dans ses statuts. Cette neutralité, dans quelle mesure est-elle régulièrement bafouée? Il faut le redire, parce que les auditeurs nous écoutent.
Je prends le cas français, par exemple. Effectivement, vous l'avez rappelé, dans les statuts et les règlements officiels de la FIFA, il y a un devoir de neutralité politique des joueurs, des instances, y compris aussi des États. Officiellement, il y a une interdiction d'ingérence politique d'un État sur sa sélection nationale. Prenez les cas simplement français. On a eu un temps un premier ministre, qui avait tout simplement, je fais référence à Manuel Valls, qui avait demandé à ce qu'un joueur ne soit plus sélectionné en équipe de France, Karim Benzema, et qui n'a pas évolué avec l'équipe de France malgré son statut d'attaquant star du Real Madrid, qui n'a pas évolué avec les Bleus pendant, il me semble, 4 ou 5 ans. Vous avez même en 2010 Naïsna, la grève des joueurs de l'équipe de France, avec dès le lendemain de cette élimination,
le ministre Bachelot prend la parole
au sein de l'Assemblée nationale pour parler de l'équipe de France. Vous avez le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui auditionne, qui accueille, qui interroge directement le joueur Thierry Henry et le sélectionneur Raymond Domenech. Donc vous avez de l'ingérence à ce niveau-là, politique directement, alors que oui, officiellement, c'est interdit.
Même prenons plus près de nous, à la Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon qui a été éliminé et l'équipe qui a été mise en sommeil, entre guillemets, par le pouvoir et des joueurs qui ont été écartés, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant de l'Olympique de Marseille.
Une question historique que je vous soumets, Paul Dietschy, historien spécialiste du sport. Y a-t-il des cas historiques où le football, une compétition internationale, a permis d'apaiser des tensions géopolitiques existantes?
Alors, il y a eu des volontés de le faire. Déjà, si on prend la Coupe du Monde 2002 qui a été évoquée, co-organisée par la Corée du Sud et Japon, le vœu de la FIFA et du président Avalanche puis de Sepp Blatter, c'était de rapprocher les deux pays. Bon, ça a plus ou moins bien marché. Après, il y a aussi des matchs qui ont pu apparaître comme symbolique. Par exemple, en 98, l'Iran avait rencontré les États-Unis pendant la Coupe du Monde française. L'Iran l'avait emporté, puis les joueurs avaient fait des photos ensemble, les spectateurs également, et donc ça avait pu apparaître comme un moment de détente. Un des cas les plus célèbres aussi, c'est en 74, lors de la Coupe du Monde organisée en Allemagne de l'Ouest, la RDA, donc la République démocratique allemande, a rencontré la RFA. D'ailleurs, c'est les Allemands de l'Est qui l'ont emporté, mais finalement, bon, c'est l'Allemagne de l'Ouest qui a gagné la Coupe du Monde. Mmh. Et pour beaucoup d'observateurs, c'était justement une normalisation des relations entre les deux États, qui d'ailleurs ont signé dans ces années-là un traité de reconnaissance mutuelle. Donc il peut y avoir des moments, évidemment, où... alors c'est pas le football qui le fait, bien évidemment. Le football, c'est parfois un prétexte pour se rapprocher. Le football, finalement, c'est d'abord une représentation, un miroir du monde à un moment donné. Les choses peuvent changer très vite, et on l'a vu, par exemple, avec la Coupe du Monde organisée en Russie en 2018.
Ronan Evin, je rappelle, vous êtes directeur général de l'association Football Supporters Europe. Il faut parler de l'influence des supporters. En quoi sont-ils aussi des acteurs politiques?
Alors, sur une Coupe du Monde, il s'agit... on risque de voir à nouveau, avant la compétition aux États-Unis, les appels au boycott qui avaient émané comme avant le Qatar ou la Russie. La réalité, c'est que les gens vont... Enfin, ça va reposer sur une décision personnelle en fonction de la boussole éthique de chaque personne. Je pense que beaucoup de gens sont mal à l'aise par la politisation de cette Coupe du Monde. Le sentiment général après le tirage au sort, c'était une forme de malaise vis-à-vis de la présence de Trump, de l'hyperpolitisation du tournoi. Et puis, nous, supporters, on essaye d'influer le cours des choses comme on peut. On a obtenu un geste de la FIFA, un certain symbolique sur le prix des billets. On va continuer de maintenir la pression puisqu'on est vraiment sur la question de la billetterie, sur un vrai changement d'air. On passe d'une Coupe du Monde qui était jusque-là dédiée, ouverte aux supporters, à une Coupe du Monde pour de spectateurs. Et on va faire en sorte de continuer de maintenir la pression pour que la FIFA reviennent sur ces décisions là-dessus.
Ronan Evin, il nous reste quelques secondes pour parler de cette Coupe du Monde qui sera l'une des moins inclusives de l'histoire. Pas de travaux à grande échelle pour accueillir les personnes en situation de handicap. Les LGBT ne seront pas les bienvenus. Les supporters sénégalais, haïtiens, ivoiriens, Julien Fourmont l'a rappelé, ils auront beaucoup de difficultés à pouvoir passer les frontières des États-Unis. Est-ce que la FIFA aura les moyens de laisser, par exemple, des banderoles LGBT s'exprimer l'été prochain? Et pardon, il vous reste 20 secondes.
C'est autorisé par les règlements FIFA. La question, c'est est-ce que les États-Unis, les autorités américaines vont les autoriser? Et là, on est dans le flou le plus complet. On l'a vu au Qatar, autorisé par les règlements FIFA, autorisé par les règlements de compétition, et les drapeaux LGBT étaient interdits dans les stades. Donc on se dirige peut-être vers quelque chose de similaire.
Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir répondu aussi précisément aux questions des auditeurs de France Inter. Le téléphone sonne, c'est terminé. Grand merci à Antoine Gignot, à la rédaction en chef, et Hugo Vlamin, que tous les deux m'ont aidé à bâtir ce téléphone sonne. À la technique ce soir, il y avait Clément Berman, il y avait Arnaud Caillé et Fabrice Desmaz. À suivre l'heure philo de Patricia Martin, ce sera après le flash de 20h et après les petits bateaux. Tous ces bouts de choux qui ont toujours une question pertinente à poser.
J'ai 8 ans, je m'appelle Nolan et j'aimerais savoir pourquoi les bébés requins sortent maman directement quand il est né et les dauphins restent avec leur maman. Au revoir.